Bonjour à toutes et tous, résidents des chênes verts et de Calypso, auditeurs de Neptune FM. C'est Maryse, c'est notre rendez-vous du mercredi après-midi. Mes lectures vont suivre. À tout de suite. Mémoire de marin, 1930-1980. Pas de pitié pour le petit mousse. Entretien avec René Biot, 8 novembre 2007, par Jean-Paul Léger. Il fait un peu frisqué en ce début novembre, et les rues de Carbossy sont presque désertes. Dans la maison de René Biot, une douce chaleur émane de la cheminée. La télévision diffuse un reportage tourné quelque part dans un pays exotique, en Afrique je crois, mais je n'en suis plus très sûre. Ce sont les émissions que je préfère, l'histoire, les récits de voyage, dit René. Normal pour un ancien marin qui a passé sa vie à bourlinguer et dont le fils, officier au long cours, navigue quelque part entre le golfe Persique et l'océan Indien. On évoque la pêche, le difficile apprentissage de métier de marin. Et comme la plupart de ses camarades, c'est à 14 ans qu'il s'embarqua. Mes parents voulaient avoir la paix. Alors, choix délibéré d'embrasser la carrière de marin? Pas vraiment. Mais comme il le dit lui-même, entouré de marins et de bateaux, je ne voyais pas faire autre chose. Me voilà donc embarqué à bord du chalutier le Bout au Vent, en qualité de promeneur. C'est ainsi que l'on qualifiait les jeunes non encore inscrits au rôle d'équipage. Le Bout au Vent est un chalutier de 15 mètres, jaugeant 43 tonnes, construit au Sable d'Olonne en 1943 et équipé d'un moteur CLM de 100 chevaux. Le premier armateur s'appelait M. Fernand Thibault. Il ne m'a pas fallu longtemps pour prendre ma première branlée. Une tempête d'une violence exceptionnelle a balayé le golfe de Gascogne en ce mois d'avril 1947. Le 3 avril fut un jeudi saint meurtrier, car le chalutier de l'île-Dieu, Arc-en-Ciel, a coulé ce jour-là, entraînant dans la mort de 5 hommes. 5 hommes et un mousse. Nous étions dans le même secteur, et nous apercevions, près de nous, le Michel André qui, comme nous, s'était mis en fuite, vent arrière. À un moment donné, un paquet de mer monstrueux a balayé le pont. Deux hommes d'équipage, Jojo et Nidas, sont tombés à la mer. Et je revois cette scène comme si c'était hier. Jojo a été ramené sur le bateau par une autre lame. Nidas s'en est sorti lui aussi, sauvé par sa capote qui a fait l'office de flotteur. Donc, lorsque quelques mois plus tard j'embarquais à bord du Pierre-André-Serge, j'avais déjà subi mon baptême de feu. C'était un Dundee des Sables d'Olonne, équipé d'un moteur, armé par un équipage de l'île-Dieu. Au total, 6 hommes, une majorité de jeunes qui aimaient bien s'amuser, mais qui étaient de bons marins. Notre moteur n'était pas toujours très vaillant, et cela nous a valu 15 jours d'escale à La Rochelle. Habituellement, le mousse n'avait pas le droit de sortir à terre. Mais cette fois-ci, l'équipage m'a emmené à Rochefort voir un match de boxe. L'un des deux boxeurs n'était autre que Marcel Cerdan. Nous chalutions dans les parages de l'île-Dieu, mais mon premier patron, qui fréquentait une fille de Loctudie, avec laquelle d'ailleurs il s'est marié, nous emmenait souvent vendre dans ce port breton. Il me revient en mémoire quelques souvenirs de Loctudie, comme cette fois où nous avions pris la piatte du port pour aller pêcher des huîtres et des moules. Le lendemain matin, la piatte avait disparu. Évidemment, c'est le mousse qu'on accusait. Mais ses reproches n'étaient pas justifiés, car ce n'était pas moi qui l'avais amarré. Enfin, la piatte n'est jamais revenue, et il a fallu que tout l'équipage se cotise pour en acheter une autre. Quelque temps plus tard, le patron a débarqué du Pierre André-Serge pour commander un autre bateau, l'Étoile du Sud, à bord duquel il a embarqué son beau-frère. Hélas pour eux, leur navire s'est perdu au large de Loch Tudy. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain sur le rivage. Le travail du mousse n'était pas drôle. Sur le pont, du lever au coucher du soleil, même la nuit, on me faisait parfois le branle-bas. Heureusement, je ne souffrais guère du mal de mer. Très tôt le matin, souvent vers 5 heures, après le réveil par l'homme de quart, il fallait d'abord allumer le poêle. Foutu poêle, qui un coup marchait, un coup ne marchait pas. Oh, cette odeur de mazout, rien de tel pour mettre les intestins en place. En effet, j'en imprégnais les copeaux de bois pour qu'ils s'enflamment plus vite. Quand l'odeur se mélangeait aux effluves du café et du poisson grillé, il fallait quand même avoir l'estomac bien accroché. Le plus souvent, on mangeait du rouge ébarbé et du pirlon, gondin gris. Pour le repas du midi, je faisais souvent du poisson bouilli. Et le soir, une soupe de faillot, des choux, des conserves, mais aussi du poisson frit. Nous buvions de l'eau embarquée dans une citerne, mais nous avions aussi du vin. Parfois, on me donnait du vin coupé d'eau, mais cela me donnait très mal à l'estomac. Nous avions également des galettes dures comme la pierre et aussi du pain. Je me souviens avoir mangé du pain rassis qui avait 33 jours. Quant aux fruits, il n'y en avait jamais. C'est le 19 novembre 1947 que j'embarquais à bord du tonnier chalutier l'aviateur Jean-François. Un an plus tard, il changera de nom pour s'appeler Irinzina. En comparaison, j'étais plus heureux à bord du Pierre André Serge. Enfin, c'était comme ça, mais la vie était dure. Ce n'était pas de la tarte. Parfois, sur ce bateau, on embarquait ses vivres. Et je me souviens qu'une fois, ma côte de lard était infestée d'asticots. Il a fallu que je trie pour récupérer les morceaux qui étaient encore mangeables. Certains matelots étaient gentils, mais d'autres m'en faisaient voir de toutes les couleurs. Un membre de l'équipage me faisait de mauvaises farces. Il retirait le moisi du pain, qu'il mettait ensuite dans mon pot de confiture. Une autre fois, il restait un peu de morue que j'ai jetée à la mer. Le gars en question est allé voir le patron et lui a dit « Le branleur a jeté la morue !» Le patron m'a puni 2 heures de quart en plus. Un jour, alors que nous étions à la vente à La Rochelle, l'équipage me dit « Petit gars, tu vas aller chercher de la viande à la boucherie. T'as qu'à prendre un beefsteak pour chacun. » Je suis donc allé dans cette boucherie où nous avions l'habitude d'aller chercher la soupe. C'était la seule sortie à terre qui m'était autorisée. C'est dommage, car je trouvais que La Rochelle était une bien jolie ville. La boucherie était située dans le quartier au nord des Deux Tours. Nous l'appelions le quartier grec. Pourquoi cette appellation? Tout simplement parce qu'à cet endroit étaient regroupées les familles des équipages des voiliers de l'île de Groix, les Grésillons, que l'on avait surnommés aussi les Grecs. Ils pratiquaient le chalut l'hiver. Bref, revenons à nos beefsteaks. Quand le patron a été mis au courant que j'avais été acheter de la viande, oh malheureux, quelle engueulade! La punition, 2 heures de quart en plus, pour m'apprendre que je ne devais prendre mes ordres que du patron. Ces anecdotes sont la stricte vérité. Mais je suis sûr que de nos jours, on a du mal à croire toutes ces histoires que nous avons vécues. Tout à l'heure, je disais que la nuit, on me réveillait parfois. C'était le cas lorsque nous étions au thon. Les perches étaient mal manœuvrées à l'aide de drisses que le mousse devait ensuite lever correctement. Si le travail n'était pas bien fait, on le réveillait la nuit et il remontait sur le pont, disposer ses trisses comme on le lui avait demandé. Tout compte fait, que ce soit à bord de ce bateau ou du précédent, le plus pénible pour moi était le manque de sommeil. Le mauvais temps, on en a eu cet été 1947, et plusieurs navires de l'île ont été complètement désemparés. Ah oui, la vie était très dure. À l'issue de cet embarquement, à bord de l'aviateur Jean-François, encouragé par les autres membres de l'équipage, qui estimaient que je méritais bien ma part complète, j'ai donc embarqué le 12 juin 1950 à bord de la Fée Viviane. En décembre de la même année, je me trouvais à bord de l'Amabi Garana. Après cela, départ pour l'armée. 18 mois, dont la plupart effectués à la base aéronavale de Lanbiwe, dans le Morbihan. Comme je l'ai dit souvent, la vie de marin-pêcheur est tout particulièrement du mousse. C'était pas de la tarte. Mais malgré tout cela, je ne regrette pas la vie que j'ai eue. Sans doute que si t'étais à refaire, je recommencerais. Témoignage paru dans le journal Le Marin des 13, 20 et 27 juin 2008. Mémoire de marin 1930-1980. Les pièges du golfe de Gascogne. Entretien avec Louis Jouot, 23 novembre 2010, par Jean-Paul Léger. Des maisons basses qui se blottissent les unes contre les autres, comme pour mieux affronter les tempêtes de l'Atlantique. Des rues étroites dans lesquelles résonnaient autrefois les conversations radio entre la station de Saint-Nazaire et les navires en pêche. C'est le quartier de la Chaume qui s'éveille, sous un beau soleil automnal, en ce mois de novembre 2010. À l'entrée du chenal, la tour d'Arendelle, elle en a vu passer de ses vieux marins sablés, ou chaumois, qui coulent désormais une retraite paisible, à l'abri des coups de mer. C'est dans l'une de ces ruelles que nous rencontrons Louis Jouot, l'un de ces anciens pêcheurs, qui passèrent leur vie à braver les éléments dans ce golfe de Gascogne tant redouté des navigateurs. Et pourtant, ce n'est pas dans ce quartier que Louis a vu le jour, mais dans la région parisienne, à La Morlaix, dans l'Oise, plus exactement. En avril 1945, il vient habiter chez sa grand-mère à La Chaume. Il n'a que 13 ans. Le 18 juillet 1949, lorsqu'il embarque comme mousse sur un petit chalutier tonnier de 14,30 m, le Virgo Maria, immatriculé au Sable d'Olonne sous le numéro 2782. À bord, 5 autres marins, dont le patron, M. Minier, homme d'expérience à qui Louis doit beaucoup. C'est en octobre de cette même année que le petit mousse essuiera sa première tempête. Un mauvais temps de sud-ouest qui malmènera quelque peu son estomac. « J'étais malade comme un chien », précise-t-il. Mais il en fallait plus pour décourager l'apprenti marin. À bord, il n'échappe pas à la corvée des pluches, de la vaisselle. Mais son apprentissage de marin, il le fera à la barre du Virgo Maria, juché sur une caisse en bois pour compenser sa petite taille. Durant les 6 années passées à bord de ce navire, il ne se souvient pas avoir été maltraité. Mais les conditions de vie étaient néanmoins difficiles. Je me vois encore à plat ventre dans la glace pour répartir le poisson, car il ne fallait pas perdre de place. Sur des navires comme le nôtre, nous embarquions 8 tonnes de glace maximum. Une bonne pêche, c'était 4 à 5 tonnes de poisson. De la mi-juin à la mi-octobre 1949, le Virgo Maria a effectué 6 marées d'une durée moyenne de 20 jours. En mer, on côtoyait souvent les gars de l'île-Dieu, les îlots comme nous les appelions. ceux de Saint-Guinolé, d'Audierne. Les souvenirs marquants de cette époque, il y en a des tonnes. En mer, la radio était le seul lien qui nous unissait. Nous écoutions parfois, impuissants, les drames qui se jouaient quelque part dans le golfe. Il y en a un qui me revient en mémoire. C'est l'accident dont a été victime un patron d'Audierne. Nous l'entendions à la radio qui pleurait de douleur. Nous sûmes par la suite ce qui s'était passé. Il se tenait à l'arrière de son navire, occupé à lancer des gros pétards contre les mauvais poissons. C'est ainsi que nous appelions les requins, ou autres espèces, dont la présence éloignait les thons. L'un de ses engins lui a explosé dans les mains. Ses yeux étaient également touchés. Et sur les 7 hommes d'équipage, aucun, semble-t-il, ne pouvait remplacer le patron au pied levé. Au bout d'un certain temps, il a pu être secouru par ses collègues bretons. Les patrons des thoniers étaient parfois très jeunes. Je me souviens, alors que j'étais mousse, de ce jeune gars qui n'avait que quelques années de plus que moi. Il devait avoir 25 ans, un grand costaud qui me donnait tous ses desserts au restaurant à Concarneau. C'était un bon gars et il est resté toute sa vie. Quant au confort à bord, bien évidemment, ce n'était pas le grand luxe. Avant chaque marée, nous embarquions des vivres pour améliorer les menus, souvent à base de thon. Nous embarquions de la morue salée qui se gardait bien, ainsi que des poulets et des lapins, même si cet animal est censé porter malheur à bord des navires. Les lapins étaient entreposés dans la glace, celle-ci finissait par fondre, et les bestioles, qui prenaient une couleur blanchâtre, baignaient dans l'eau. Avant de les cuisiner, nous les lavions à l'eau de mer, à laquelle nous ajoutions un filet de vinaigre pour enlever le goût de faisandé. Cela m'a tellement écœuré que j'ai mis des années avant de me remettre à en manger. Pour améliorer l'ordinaire, on piquait parfois des dauphins ou des marsouins, mais c'était plutôt rare. Et comme nous ne possédions pas de harpon à bord, nous en avions confectionné un avec un tube coupé en pointe à son extrémité. Ce harpon de fortune, je me souviens l'avoir jeté par-dessus bord, car nous rations souvent nos cibles, mais non sans les avoir blessés. Nous entendions distinctement ces animaux qui pleuraient, et cela m'a fait mal au cœur. À cette époque-là, beaucoup de thoniers capturaient les marsouins. Ce n'était pas par simple cruauté, mais tout simplement pour changer l'ordinaire. Le surplus était parfois vendu dans les criers. Entre 1953 et 1954, Louis cesse de naviguer durant l'hiver pour suivre les cours de l'école de pêche. En avril 1954, il a alors 18 ans, il obtient son diplôme de patron de pêche. Il passe également son permis de conduire des moteurs de 150 chevaux et le certificat restreint de radiotéléphoniste. D'autres embarquements suivent à bord du Loulou, immatriculé LS 2557, avant de partir au service militaire. 28 mois dans les fusiliers marins au camp de Sirocco en Algérie, puis en Tunisie. Libéré des obligations militaires, il arrive en gare des Sables d'Olonne le 16 août 1958 vers 13h30 et il repartira en mer dès le lendemain matin à 5h à bord du Jean-Pierre Alain dont il prendra le commandement. Le 1er avril 1959, l'armateur de ce navire, M. Jules Courtois, est également directeur gérant de la conserverie Gracier de la Chaume. D'ailleurs, le navire porte les prénoms de ses deux fils. À bord de ce navire de 17,80 m, jaugeant 44,96 tonneaux, le confort reste rudimentaire. L'équipage loge dans la chambre, espace de petite dimension, dans lequel sont disposées 6 couchettes. 2 de ces couchettes étaient installées à l'arrière, au-dessus de l'hélice, C'était un endroit très bruyant. Le Jean-Pierre Alain pratiquait le chalut l'hiver et le thon à l'appât vivant l'été. L'équipage passait ainsi de 6 à 11 hommes qu'il fallait bien loger, où l'on pouvait, notamment dans le poste avant, dans deux minuscules couchettes. Il ne fallait pas être trop corpulent. C'est l'armateur qui avait fait aménager ce gaillard d'avant dans lequel nous rangions également toutes sortes de matériel. J'y avais fait installer des toilettes, simples planches en bois percées d'un trou, surplombant un seau. Les gars allaient là pour satisfaire leurs besoins. Ils devaient ensuite vider le seau et bien le rincer avant de le remettre à son emplacement. Avant cette installation, il fallait s'asseoir sur la lisse et se cramponner du mieux que l'on pouvait, note de Roland Mornay. Il existait un autre système, un arceau métallique, amovible, qui s'encastrait dans les trous sur la lisse. La lisse, un peu, un plus pour la sécurité et le confort. Pour se laver, une gamelle ou tout autre récipient approprié faisait l'affaire. Les repas se prenaient dans la chambre et chacun s'installait du mieux qu'il le pouvait. Le plus souvent avec la gamelle sur les genoux, bien calée pour ne pas verdinguer sous l'effet du roulis ou du tangage. Lorsque nous nous trouvions très loin au large et que le mauvais temps se levait, il fallait subir tout en prenant des dispositions adéquates pour assurer la sécurité du navire et de l'équipage. À la radio, nous écoutions ce qui se passait, parer, éventuellement apporter assistance à un collègue en difficulté. Parfois, nous trouvions trop loin pour intervenir, mais nous écoutions avec angoisse les conversations échangées avec les navires. Certains parages sont plus dangereux que d'autres, et le golfe de Gascogne a plutôt mauvaise réputation. Mais je me méfiais tout particulièrement de la zone au sud de l'Angleterre, où sévissent de très violents courants croisés, ceux qui viennent de la Manche et ceux du canal Saint-Georges entre l'Irlande et l'Angleterre. C'est là qu'une fois nous sommes tombés dans un creux. J'étais projeté au-dessus de la table qui a été arrachée. À l'intérieur de la chambre, tout était chaviré. Le premier réflexe du patron, après de telles coups durs, c'était de vérifier l'état de la coque pour détecter une éventuelle voie d'eau. Une des tempêtes qui m'a le plus marqué fut celle que nous avions subie à bord du Jean-Pierre Alain en juillet 1961. Ce mauvais temps occasionna d'ailleurs la perte de plusieurs navires, surtout chez les Espagnols. Mon ancien matelot, qui devint ensuite commandant des navires océanographiques, Roland Mornay, a eu l'occasion de décrire ce coup de tabac de manière très réaliste dans un article du Chasse-Marée numéro 69. Difficile, en effet, d'oublier ce 12 juillet 1961. La veille au soir, tout était calme, mais au large, les ligneurs signalaient du mauvais temps. Ils se mirent tous à la cape. Nous nous trouvions alors aux Açores des fonds, limite du plateau continental, par environ 45 degrés de latitude nord. Au lever de jour, nous filâmes les lignes. Mais le sorcier, entre parenthèses le baromètre, tombait à vue d'œil. La mer se mit à grossir et une forte houle se leva. Curieusement, le vent restait faible. Ce temps-là ne me disait rien qui vaille. Je décidai alors de faire route terre et donnai mes ordres à l'équipage. Mettez tout en ordre sur le pont et videz les viviers à appât pour alléger le bateau. Mais enfin, comment peut-on jeter un si bel appât ? Répliqua un matelot. Faites ce que je vous dis et grouillez-vous. Cette décision, contestée par le coup par quelques membres de l'équipage, fut selon Roland Mornay une décision salvatrice si l'on se réfère à ce qui va suivre. D'autres navires thoniers et chalutiers faisaient également route terre en fuite devant le mauvais temps. La mer se creusait, mais rien à signaler jusqu'au début d'après-midi, où brusquement, l'obscurité envahit la passerelle. Machinalement, Je me retournai, et à travers le carreau arrière, je vis un mur d'eau s'élever, une vague immense parée à nous engloutir. Mon premier réflexe fut de débrayer, mais sans réduire les gaz pour éviter que le moteur ne stoppe. La lame a complètement submergé l'arrière. Elle nous a caplés de manière brutale. Elle a fait tuile, comme il est usage de dire. L'équipage, qui se trouvait dans la chambre et dans le poste avant, a pensé que nous avions chaviré. Plusieurs de mes hommes ont cru leur dernière heure arrivée. Concernant cet épisode, voilà ce qu'écrivait Roland Mornay. Soudain, un choc terrible, un coup violent, comme si une main titanesque avait voulu nous assommer, accompagné d'un bruit formidable. Le bateau se couche brutalement sur tribord et je me retrouve le dos plaqué à la boiserie. Yannick, son couchage et son plushéage sont projetés sur la cloison de la couchette tribord. Il effectue une sorte de voltige impressionnante. Et c'est miracle qu'il ne se soit pas rompu le cou. L'eau s'engouffra alors par le capot de descente, phénomène qui accentua l'angoisse de l'équipage qui croyait réellement au chavirage. À près d'un mille, dans notre sud-ouest, un autre navire, le fils de la Vierge, a assisté à la scène. Durant quelques secondes, le patron de ce tonnier, Michel Adrien, a cru que nous étions engloutis. Puis, en fin de journée, le temps amollit, un peu tout en restant menaçant. Nuit suivante, un peu plus calme, et à 8 heures le 13 juillet, nous embouquions le chenal des sables en même temps que d'autres collègues. Roland Mornay se souvient que c'est l'aumônier des marins, l'abbé Lefebvre, qui avait attrapé les amarres. Ce dernier avait compris qu'avec une telle furie de temps, il y aurait de la casse. Quelques copains, comme ceux du Tanit, ne revinrent jamais au port. Comme le précise Louis, c'est une situation que l'on ne voit pas deux fois dans une vie de marin. La chance a ses limites. Après toute une carrière de pêche au large, thon en été, chalut l'hiver dans le golfe de Gascogne et en mer d'Irlande, Louis opta pour la petite pêche en 1977. Il naviguera seul sur son petit chalutier en acier de 9 mètres, le cavalier seul. En fin de carrière, il sera parfois accompagné par son fils, Laurent, avant que ce dernier ne parte sur les grands chalutiers. On suppose que Laurent fut à bonne école. Fin 1989, Louis vendra le cavalier seul. Début d'une retraite qui sera loin d'être inactive. Entre 1991 et 1996, on le retrouve président de la station locale SNSM. Il fut aussi mécanicien lameneur, patron des vedettes de pilotage, le Delta et le Noura. Activité qu'il conservera jusqu'au 24 septembre 2010. On le voit également sur le port, donnant un coup de main à ses copains des chalutiers, des glaçages, ramandages. Il y a peut-être un peu de nostalgie chez ce marin remarquable, mais ce n'est pas ce qui prédomine, plutôt le souvenir d'une vie active, passionnante et bien remplie. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles lectures en direct. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine.